Je vous invite à ouvrir la parole dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Lisons quelques versets. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes se dirent : Cet homme blasphème. Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Nous passons au verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, leur répondirent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. J'aimerais dans cette lecture constater et voir avec vous, dans ces quatre situations différentes, voir avec vous la foi. La foi qui, à chaque fois, dans cette situation, dans ces quatre situations, a été une réalité et qui a été le déclencheur d'un puissant miracle. Car, nous le savons, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. La foi subit de nombreux assauts, de nombreuses difficultés, de nombreux assauts qui viennent avec le doute et les craintes peut-être pour que notre foi soit attaquée, qu'elle soit affaiblie, qu'elle puisse si possible s'arrêter. Et la foi dans ces quatre situations va être éprouvée chacune. Et nous allons voir qu'une foi éprouvée qui arrive avec persévérance à la fin de quelque chose, de son test, de son épreuve, va recevoir la bénédiction de l'exaucement. Et dans ces quatre situations, dans ces quatre rencontres, dans ces quatre exemples, qui tous se passent la même journée et dans la même ville de Capernaum, car Matthieu chapitre 9 se passe dans une et une même journée, eh bien Jésus a réalisé ces quatre guérisons dans une seule journée. Mais il a demandé à chaque personne ou à chaque groupe de personnes quelque chose de particulier qui s'appelle la foi. Donc j'aimerais vous parler de la foi qui obtient. Et cette parole, si nous l'avons déjà lue, j'en suis certain, et cette parole, si nous l'intégrons, si nous la recevons avec un cœur ouvert, elle va produire aussi chez nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les mêmes résultats. Il suffit de croire et de saisir comme ces personnes, à l'exemple de ces personnes. Et le Seigneur va s'y prendre à chaque fois de manière différente. Regardons la première situation. Voilà un homme qui est paralysé, un homme qui ne sait pas bouger. Cet homme, heureusement, n'est pas tout seul. Heureux celui qui a des amis et qui n'a pas besoin de dire « moi, il n'y a personne qui pense à moi, personne ne s'occupe de moi, personne ne pense à moi ». Mais cet homme, il avait quatre amis qui ont pris sa condition à cœur. Quatre hommes qui se sont mobilisés et qui ont mis peut-être leur vision personnelle un peu de côté pour aller ensemble dans la même direction et pour atteindre le même objectif, à savoir amener cet homme aux pieds de Jésus. C'était leur but. Coûte que coûte, il faut que Jésus puisse intervenir dans sa situation. Voilà quatre persévérances, quatre personnes qui vont se mobiliser pour notre ami paralytique. Je pense que nous devrions tous être reconnaissants pour des personnes qui prient pour nous. Et nous recevons des sujets de prière tous les jours. Il y a par différents moyens, différents axes, nous arrivent des sujets de prière où des personnes veulent prier. Et les réseaux, les connexions aujourd'hui sont faciles à faire. Et un des avantages de ces groupes de connexions, bien, c'est de pouvoir prier les uns pour les autres. Et encore ce matin, nous avons béni une jeune qui se trouve à l'hôpital en ce moment. Et nous prions parce que nous voulons être comme ces quatre amis du paralytique. Quelqu'un qui n'a plus de force, quelqu'un qui n'a plus de ressources, quelqu'un qui est affaibli, a besoin que d'autres se mobilisent pour lui. Alors si vous êtes peut-être dans un état de faiblesse ou de difficulté, n'hésitez pas à faire appel. Trouvez-vous quatre amis qui peuvent porter votre vie et votre situation aux pieds du Seigneur. Et que peut-être que vous puissiez vous-même aussi dire, mais peut-être que moi j'ai pas besoin d'amis aujourd'hui qui me porte parce que je suis en bonne forme et j'ai des ressources, j'ai des forces, j'ai de l'énergie. Mais peut-être que vous pourriez dire, mais de qui puis-je être l'ami aujourd'hui? Est-ce que peut-être moi je peux être disponible pour quelqu'un qui a besoin de moi aujourd'hui? Est-ce que je peux être un ami pour quelqu'un? Est-ce que je peux soutenir la foi de quelqu'un? Parce que Jésus va simplement, il nous est dit, Jésus voyant leur foi. C'est pas la foi du malade qui va toucher Jésus, mais c'est la foi de ceux qui le portent. Donc c'est la foi de ceux qui entourent cet homme malheureux qui a des grands besoins, c'est leur foi qui va être incisive, qui va être déterminante. Et Jésus va donc regarder leur foi et va s'adresser maintenant à cet homme. Je ne vais pas détailler tout cela comme développer davantage, mais juste dire que ce qui me touche, c'est la délicatesse de Jésus qui voit arriver à ses pieds cet homme, et on sait au travers des autres textes qu'ils ont démonté le toit pour faire descendre cet homme aux pieds de Jésus, et il va dire « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Première chose que Jésus dit, « Prends courage ». J'aimerais vous dire ce soir, « Prends courage, sois de bon courage ». Ta situation n'est pas désespérée, Jésus n'est pas loin, il va faire quelque chose pour toi. Prends courage. Et Jésus va dire, mon enfant, ça veut dire aussi que cet homme paralysé peut-être se considérait comme quantité négligeable. Il était peut-être simplement là, il se disait, mais je sers à quoi? Je sers à, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Ma vie ne sert plus à rien. Et Jésus lui donne un titre, une identité. Tu es mon enfant. Tu es l'enfant du Père. Tu es précieux pour moi. Tu comptes pour moi. Non, tu n'es pas juste un cas particulier, qui est difficile, qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'énergie des autres, tu es mon enfant. Et je pense que des personnes qui se sentent parfois dans leur faiblesse, dans leur âge avancé peut-être, ils ont besoin d'entendre ça, mon enfant. Que le Seigneur puisse vous le dire personnellement ce soir. Tu es mon enfant. Jésus va pardonner ses péchés avant tout. Et il va dire, alors qu'il y a... Vous savez, à chaque fois qu'il y a un miracle qui se passe, il y a de l'opposition dans les cieux. Il y a une réaction de la chair. Il y a une réaction diabolique qui veut empêcher, bloquer cette action miraculeuse. Et voilà que les scribes et les pharisiens n'ont rien d'autre à penser. Au lieu de se réjouir de ce qui se passe, ils vont contester et dire « cet homme blasphème ». Mais Jésus va dire « qu'est-ce qui est plus facile ? Pardonner les péchés ou guérir un malade ?» Nous savons que guérir un malade, une parole de Dieu suffisait. L'autorité de Jésus était toute suffisante pour guérir un malade ou ressusciter un mort. Mais nous savons aussi qu'une chose plus difficile encore, pardonner les péchés. Pourquoi est-ce plus difficile pour Jésus? Parce que pour pardonner les péchés, il devait mourir à la croix. Il devait donner sa vie. Il devait tout engager. Une passion, une souffrance, devenir péché pour nous, C'est ça le prix du Fils de Dieu pour pouvoir nous pardonner, mais faire un miracle. La parole d'autorité du Christ suffisait. Mais recevoir le pardon est facile pour nous, mais lui a coûté toute chose au Seigneur. Et puis intervient la foi du paralytique quand même, puisque Jésus va lui dire « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi ». Donc il fallait quand même que la foi de l'homme en question puisse se manifester. Il a été porté par la foi des autres, mais à un moment donné, c'est lui qui doit se lever quand même. Donc sa foi personnelle, encouragée par la parole de Jésus, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés », cet encouragement va lui donner la force et la capacité de se lever à son tour. Ah, que ce soir, vous puissiez entendre ces paroles personnellement. « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, parce que j'ai tout payé à la croix pour toi, mais maintenant c'est à toi de te lever. » Et si tu as été porté par les autres, c'est à ton tour de porter quelqu'un. Et j'aimerais peut-être que cette parole résonne un petit peu à votre oreille. Peut-être que vous êtes rapide pour dire « Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, ne m'oublie pas. » Mais à partir de ce soir, réfléchissez. Et si moi, je me mettais un petit peu à disposition et je commencerais à soutenir la foi de quelqu'un, pour qui est-ce que je pourrais prier peut-être? Posez-vous la question. Donc, le premier miracle, il a été fait, il a été accompli sur base de la foi de cette équipe des quatre amis, la foi des autres. C'est la foi des autres qui a soutenu cet homme malade. Nous passons à la deuxième situation à partir du verset 18 où nous voyons ce chef de la synagogue et avec les passages parallèles de Luc, nous voyons que cet homme s'appelait Jaïrus. Jaïrus est dans une situation extrême. Il est chef de la synagogue à Capernaum. La ville où Jésus rentre, sort, c'est un peu son QG, son quartier général. Il est très souvent à Capernaum. C'est la ville en Galilée où il a été le plus présent. Et Jaïrus est dans cette ville, chef de la synagogue. Il y a du monde et il y a bien sûr, chaque fois que Jésus arrive, de la contestation. Jésus ne laisse pas quelqu'un indifférent. Et dans les cieux, à nouveau, il y a cette réaction, il y a cette confrontation des royaumes lorsque Jésus arrive. Et les scribes, les pharisiens avaient mis la pression sur Jaïrus et lui avaient fait comprendre « Si toi, tu crois dans ce Jésus, tu risques ton poste. Hein? Tu prends des risques. Ta réputation est en jeu. Fais attention à ce que tu fais. Si tu donnes ta foi à Jésus, alors ça risque d'être... différents, nos relations vont changer. » Donc Jaïrus était un peu entre deux chaises. Il a hésité longtemps avant de s'approcher de Jésus. Il a vu des miracles se passer déjà dans la synagogue. Mais il avait la pression des scribes, des pharisiens autour de lui qui étaient un peu maîtres à bord dans cette synagogue. Et il se demandait ce qu'il pouvait faire. Il est resté silencieux un certain temps. Il a attendu le dernier moment pour venir à Jésus. Mais même en venant tard, Jésus l'a accueilli. Il est venu à Jésus et il a directement, dans sa situation extrême, sa fille était gravement malade, voilà qu'elle vient de mourir. Et il a cette foi qui était en lui et qu'il va exprimer maintenant. C'est la déclaration de la foi d'une personne qui a de grands besoins que je veux souligner dans ce deuxième point, dans cette deuxième situation. Il dit, viens, impose-lui les mains au mort et elle vivra. Quelle foi! Et Jésus est étonné, surpris en bien de cette foi de cet homme. Voilà que, en cours de route, ils sont arrêtés par cette troisième situation où cette femme atteinte de perte de sang va s'approcher et un miracle va se passer pour elle. Et Jaïrus, qui est en route avec Jésus pour aller chez lui, pour que Jésus puisse imposer les mains à sa fille qui donc vient de décéder, ils sont arrêtés, la situation est urgente. Ah, pourquoi ce retard? Mais encouragé par la foi et par le miracle qui vient de se passer, il reprend courage. Et en rentrant, eh bien, il apprend que sa fille est décédée, elle est morte. Et Jésus va lui dire de ne pas craindre. Nous voyons ça dans les passages parallèles. Dans Luc chapitre 8, verset 50, Jaïrus n'a même pas besoin de réagir. Jésus a connu sa foi et Jaïrus n'a pas besoin de réagir. Jésus nous a dit, Il se retourne vers lui et dit, « Sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. » Jésus vient spontanément vers lui pour encourager sa foi. J'aimerais que Jésus puisse également vous toucher par son esprit ce soir et dire, « Prends courage, ne crains pas, ne crains pas les mauvaises nouvelles. » Ne crains pas les situations qui semblent fermées, où il n'y a plus d'issue, plus d'espoir. Aujourd'hui, je suis là pour intervenir dans ta situation. Je suis là pour cela. Elle n'est pas morte, elle dort. Et encore une fois, réaction dans les lieux célestes, confrontation de royaume. Les gens se moquent, les gens ne croient pas dans ce qui se passe. Mais Jésus est connecté à la parole du Père. Ce que le Père dit, Jésus l'entend. Ce que le Père fait, Jésus va le faire. Il est connecté à la verticale et non pas au bruit qu'il y a autour de lui. Il est connecté dans un autre monde, Jésus. Et il va entendre le Père qui dit, cette enfant n'est pas morte, elle dort. Et Jésus va dire cette parole de Dieu, dans cette situation. C'est pourquoi nous avons besoin, nous aussi, de recevoir une parole de Dieu, une vérité biblique, une vérité puissante qui surpasse les réalités terrestres. La réalité terrestre, c'est qu'elle est morte. C'est des réalités immuables au niveau de l'humain. Mais la vérité biblique est au-dessus des réalités. Et c'est la vérité qui doit triompher. C'est la vérité que nous proclamons ce soir. Et Jésus va proclamer cette vérité entendue du Père dans une situation qui semble fermée et perdue à jamais. Et il rentre donc, et cette jeune fille, il va saisir sa main, elle va se lever. Extraordinaire. La parole de vérité se place au-dessus des réalités terrestres. Retenez ça pour ce soir, chers amis. Placez la vérité de la parole de Dieu au-dessus de vos réalités. Je place la vérité de la parole de Dieu au-dessus de mes réalités. Vérité au-dessus des réalités. Jésus soutient la foi de Jaïrus. Jésus soutient ta foi ce soir. Jésus soutient ta foi. Viens, impose-lui les mains, elle vivra. Il avait la foi. Mais cette foi avait besoin dans ce test, dans ce retard, dans cette mauvaise nouvelle qui était confrontée à sa foi, eh bien, il avait besoin d'être encouragé par la foi de Jésus. Ne crains pas, crois seulement et elle vivra. Ça, c'est la parole que Jésus va donner pour l'encouragement. Troisième situation, nous l'avons déjà évoquée au verset 20, c'est l'histoire de cette femme qui est donc malade depuis 12 ans. Et regardez ce qui se passe, parce que la foi est le mot-clé, c'est ce que Jésus veut voir dans chaque situation avant d'intervenir. D'abord, nous avons vu leur foi. Ensuite, c'est la foi proclamée de Jaïrus. Ici, il nous est dit, au verset 21, « Elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Personne ne l'a entendu. Elle se disait au fond de son cœur, dans son esprit, elle se disait, si je peux le toucher, je serai guéri. Sans avoir ouvert la bouche, au verset 22, Jésus s'arrête, se retourne vers elle, il a entendu la foi silencieuse. Peut-être que vous n'êtes pas de ceux qui proclamaient votre foi haut et fort. Mais si au bout de autant d'années d'épreuves qui l'avaient mis sur la touche, qui l'avaient mis dans l'oubli et dans la souffrance, sans avoir vu de résultat, elle a encore une foi vivante. Eh bien, Jésus a vu cette foi, il va honorer cette foi. Il va honorer cette foi de cette femme qui parle dans son cœur. Et Jésus va s'arrêter pour se retourner vers elle et lui dire une parole similaire que nous avons déjà lue au début. « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Alléluia. Prends courage. Tout à l'heure, le paralytique recevait la même parole. Prends courage, mon enfant. Ici, il dit, prends courage, ma fille. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas un cas désespéré. Tu n'es pas quelqu'un qui ne peut plus aller en société à cause des impuretés rituelles décrites dans le Lévitique dont cette femme était victime maintenant. Eh bien, Jésus dit, tu es ma fille. Tu es quelqu'un. Je t'aime. Je t'ai entendu. Je prends soin de toi, ton Père céleste t'a vu et aujourd'hui ta foi sera encouragée, ta foi t'a guéri et à l'heure même elle fut guérie. Elle aurait pu dire, j'ai tellement prié, j'ai tellement espéré, mais en vain. Pourquoi Dieu m'a oublié? J'ai fait tout juste et voilà qu'il n'y a pas de résultat. Je n'ai pas péché, Seigneur, j'ai tout confessé. Je ne mérite pas cela, pourquoi suis-je victime? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de chance? Malgré qu'elle ne comprenne pas tout, elle refuse de se révolter contre Dieu. Elle persévère, après 12 ans encore, sa foi est debout. Elle refuse de lâcher, elle fait encore confiance. Elle a repris toutes ses forces, sachant que Jésus devait passer par là pour s'approcher et saisir le bord de son vêtement. Elle a encore, après 12 ans de maladie, placé sa confiance dans le Seigneur. Et si vous êtes là ce soir, en train de dire « mais ça fait si longtemps que j'attends une réponse, ça fait si longtemps que j'attends que quelque chose bouge, ça fait tellement longtemps que je prie et que j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas », j'aimerais vous dire « Jésus entend votre foi silencieuse aussi ». Mais il faut que ce soit une foi vivante, une foi vivante. Une foi qui est encore debout et qui persévère encore. Elle se parle à elle-même. Ça veut dire qu'elle a son espérance qui est remplie et qui est vivante. Elle est remplie d'une parole de foi. Si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Recevez ce soir une parole de foi. Mettez votre foi en action. Touchez Jésus par votre foi et quelque chose se passera. Je veux le croire, j'ai prié pour cela en préparant cette réunion. Prends courage ce soir, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix, dira Jésus, c'est dans le texte parallèle Marc 5, 34. Va en paix et sois guéri de ton mal. Dans les textes parallèles, nous trouvons d'autres détails. Si vous voulez les lire, faites-le. Jésus va s'arrêter et va dire « Qui m'a touché ? J'ai senti une force sortir de moi ». Et j'aimerais que ce soir aussi, vous puissiez toucher par votre foi et votre confiance inébranlable dans l'impossible, vous puissiez stopper Jésus pour qu'il puisse vraiment se retourner et dire « Prends courage, mon enfant, ta foi est en action. J'ai entendu ta foi, j'ai entendu ta foi, j'ai senti ta foi et une force est déjà en route vers toi. » Dernière situation, nous sommes en contact avec cette nouvelle situation, verset 27, Jésus s'en allait et deux aveugles le suivent. Ils crient leur besoin, « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchent de lui et cela nous montre que Jésus ne les a pas guéris directement. Il n'y a pas de guérison instantanée. Ils sont en train de suivre Jésus et tout en suivant Jésus avec la foule qui avance, ils disent « Fils de David, aie pitié de nous ». Ils sont en train d'évangéliser les autres. C'est le fils de David, lui. Il ne voit rien, ils suivent quand même en étant aveugles. Jésus, on pourrait dire « Jésus, mais attends, Jésus, tu peux pas avoir un peu compassion de ces gens-là, ils ne voient rien, ils continuent à tâtonner, ils te suivent, mais guéris-les. Ils sont aveugles, ils sont mal en point, ils ne peuvent pas beaucoup faire grand-chose. » Jésus les teste malgré tout. Et ils suivent Jésus, ils avancent avec la foi qu'ils ont. Ils sont en train de déclarer publiquement leur foi. Tout en avançant, ils évangélisent encore. Ils ne sont pas guéris, mais ils témoignent, ils avancent, ils témoignent. Des fois, nous avançons tout en témoignant. Parfois, vous serez appelé à donner un témoignage juste au moment où vous vous sentez au plus mal. Juste au moment où vous n'êtes pas en forme du tout, se présente une situation facile, où vous sentez, donne ton témoignage, dis quelque chose, dis ta foi à cette personne qui a besoin. Et vous dites, mais Seigneur, je suis tellement peu en forme moi-même, j'ai tellement peu envie, j'ai tellement peu prié, je suis tellement bas. C'est justement là que Dieu a besoin que vous puissiez manifester votre foi dans vos faiblesses. Je peux vous dire que chaque fois que j'étais confronté à une situation, même quand moi-même je n'étais pas au meilleur de ma forme, et que j'ai quand même témoigné, c'est à ce moment-là que ma foi a été remontée. C'est à ce moment-là que j'ai été encouragé. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est passé dans ma propre vie, dans la vie de l'autre aussi, mais aussi dans ma propre vie. Ces aveugles suivent Jésus, qui ne répond pas tout de suite, et lorsqu'ils arrivent à la maison, ils s'approchent de lui, et Jésus leur demande « Maintenant, croyez-vous que je puisse faire cela ?» Il a besoin d'entendre quelque chose. Et il nous a dit clairement, « Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Donc ils vont répondre clairement quelque chose au Seigneur. Ce soir, et je termine par là, le Seigneur voudrait aussi entendre de votre part, de ma part, oui Seigneur, oui Seigneur, tu peux faire quelque chose. Je sais que tu peux le faire. Malgré mon handicap, je te suivrai quand même. Je témoignerai encore. Je proclamerai encore que tu es le fils de David et que tu as vraiment entendu par ta compassion mon problème, mon besoin. Et je viens vers toi ce soir, je viens vers toi et même je ne me laisse pas arrêter. Et tout le monde peut entendre ma déclaration de foi. Et ils s'approchent dans cette unité. Regardez un petit peu, ils ont tout fait ensemble. Ils le suivent ensemble, ils crient ensemble, aie pitié de nous, ils s'approchent ensemble et ils répondent ensemble, oui Seigneur. Alors il les toucha, leurs yeux, qu'il soit fait selon votre foi. Cette unité de ces deux petits aveugles-là, cette unité, elle me passionne, elle me parle, elle me touche. C'est quand même beau de voir qu'ils sont vraiment en harmonie. C'est un duo inséparable dans la vie probablement, mais aussi dans leur foi. Ils connaissent la promesse que Jésus est venu pour guérir les aveugles, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Suis Jésus malgré tout. Prie-le malgré tout. Fais-lui confiance malgré tout. Que ta foi ce soir soit soutenue. C'est le mot d'ordre pour nous. Porte la foi de ton frère. Jésus soutient ta foi. Par la foi et la persévérance, tu hériteras des promesses. Et confesse son nom malgré tout. Place la vérité au-dessus des réalités. Je vous lis un dernier texte et puis je vous donne un témoignage. Romains 4, 18 à 22. Abraham, il est dit qu'il a espéré contre toute espérance. Espéré contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devait un père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, tu seras, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il aurait pu lui aussi s'arrêter. Mais sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, je souligne la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi Dieu a dit « ça ». C'est un homme juste et je voudrais que son témoignage soit noté dans la Bible, que son témoignage subsiste, que sa foi soit connue comme étant un modèle. Il est le père de la foi. Relisez chez vous Romains chapitre 4, verset 18. Je termine par ce témoignage d'une personne que je connais très bien, qui habite dans un autre canton en Suisse. Une dame, mère de 4 enfants. Elle a été diagnostiquée il y a une dizaine d'années en arrière d'une polyarthrite rhumatoïde. Une maladie articulaire et depuis ce moment, ses facultés, ses capacités physiques ont été notablement diminuées. Les douleurs étaient constantes, les articulations enflammées, tout était difficile, le ménage, le travail. Elle était pianiste aussi, elle n'arrivait plus à jouer le piano. Elle a été plusieurs fois hospitalisée quand il y avait ces fameuses crises et elle a été sous médicaments lourdement, des médicaments très forts. Il y a eu des hauts et des bas, les douleurs venaient, partaient, il y a eu des temps de répit, mais surtout une fatigue constante. Elle s'accroche dans la foi, elle croit, elle demande la prière une fois, deux fois, l'imposition des mains, l'onction d'huile, mais la maladie persiste. Un jour, lors d'un culte, elle se lève pour demander encore une fois la guérison. Mais voilà que le lendemain, les douleurs sont encore plus intenses. Quel combat, quelle crise, quelle déception! Elle n'est pas guérie, elle souffre, elle pleure. Dès ce jour, elle va pleurer devant Dieu et dire « Seigneur, je ne te demande plus la guérison, mais je te dis simplement, tu peux me guérir quand tu veux. » Donc elle va se relâcher. Elle se sent comprise par très peu de personnes. La solitude la submerge, mais sa foi demeure. Beaucoup de promesses bibliques la soutiennent. Mais arrive un camp chrétien et c'est le jour de son anniversaire. Dans un temps de culte personnel, elle reçoit une parole. Proverbe chapitre 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour son corps. Fortuitement, elle croise une personne dans ce camp qui ne connaît rien du tout de sa vie et lui souhaite bon anniversaire. Cette personne quitte, mais elle s'arrête et elle revient sur ses pas. Et elle dit, « Dieu vient de me montrer quelque chose pour toi. Je te vois courir dans un pré, pieds nus. Tu as vécu des temps très difficiles, mais Dieu te dit, c'est fini. » Alors notre sœur en question dit, « Merci. » La rencontre du matin dans ce camp commence. L'orateur propose qu'on fasse silence et que si quelqu'un reçoit une parole pour quelqu'un, qu'il la dise. Sur ce, il y a un petit peu de mouvement dans la salle. Une jeune femme s'approche de notre sœur en question, sans la connaître, et lui dit ceci. « Je te vois courir dans un pré, tu as vécu des temps difficiles, Dieu te dit, c'est fini. » Les larmes commencent à jaillir de ses yeux. En 15 minutes d'intervalle, deux personnes qui ne connaissent rien de sa vie lui disent exactement la même chose, sans la connaître. Dans ce temps de prière du matin, trois personnes prient maintenant pour elle et invoquent le nom du Seigneur et la guérison sur sa vie, en priant d'abord pour que toutes les tensions qui se sont accumulées au cours des années puissent se relâcher, car la maladie est là depuis 10 ans. Et après, le camp continue avec ses activités et elle se surprend à marcher 1 heure, puis 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans aucune douleur. Les douleurs sont parties définitivement. Elle a pu rejouer du piano. Elle n'a plus aucune douleur maintenant. Je la connais personnellement et j'espère qu'un jour elle viendra ici dans l'église pour dire elle-même son témoignage avec tous les détails.